La digestion lente d'un corps. Ce soir-là, Adèle partit juste après le dîner et Gauvin la suivit. Il n'alluma pas sa torche fixée au guidon pour être invisible dans la nuit et se laissait guider par le bruit des sabots du cheval, même s'il connaissait déjà la destination. Malgré la lenteur du galop, l'animal était difficile à suivre à vélo. Au dernier carrefour, elle bifurqua sur la gauche pour monter par le chemin le plus large, accessible à Perceval. Le garçon prendrait la route à droite, puis le sentier qui montait jusqu'au lac. Il abandonnerait son vélo près du banc et finirait à pied jusqu'au rocher des Faux-Amants. Proche de la plénitude, la lune éclairait la route d'une lumière froide. En arrivant sur le sentier bordé d'arbres, il alluma sa lampe pour dissuader l'obscurité soudaine de le précipiter dans le ravin. Il déposa son vélo pour grimper vers la crête. La lumière blafarde de la lune permettait à nouveau de distinguer chaque détail alentour. Gauvin était l'acteur d'un vieux film muet. La scène avait déjà commencé. Cette fois-ci, Gauvin décida de s'approcher pour comprendre la conversation. L'homme, attaché au rocher par plusieurs cordes fines, avait trouvé assez excitant qu'elle lui suggère d'emblée de passer aux choses sérieuses et à des pratiques peu courantes dans les couples classiques. Son épouse ne lui proposait pas ce genre de jeu, et sortir de l'ordinaire avec cette créature sublime était inespéré. Elle avait commencé à tirer les ficelles durant la visite en forêt à laquelle le couple avait assisté quelques jours auparavant. Il se laissa attirer dans cette expérience insolite. Adèle minaudait en lui caressant le visage, le torse, le sexe. Quand il penchait la tête vers elle à la recherche de sa bouche, elle esquivait, ce qui rendait l'homme fou de désir. Elle ouvrit le pantalon et le baissa d'un geste brusque jusqu'au genou. Le slip suivit le mouvement. Il bandait. Depuis sa cachette, Gauvin pouvait entendre chaque mot. La conversation dégénéra vite. « Tu es marié, non ?»« Elle n'en saura rien, » répondit l'homme en riant. Il n'avait pas encore vu le couteau qu'avait sorti Adèle de sa ceinture en cuir, ni compris que le jeu allait virer au cauchemar. « Et ça te pose aucun problème de baiser avec n'importe qui ?» Elle avait saisi les testicules et le sexe de l'homme dans sa main et brandissait désormais la lame entre leurs deux visages. Il paniqua, les bras en croix attachés par un lien qui faisait le tour du rocher et le ventre fixé par une autre corde. « Putain, mais t'es complètement folle !» avait-il hurlé. « Oh, mais tu ne bandes plus déjà, petit chat. Quel dommage. On fait moins le malin, hein ? Je supporte pas les hommes qui font n'importe quoi avec leur bite. Il faut bien payer un jour. Pour toi, c'est maintenant. » La jeune femme parlait d'une voix calme et glaçante. Elle avait amorcé un mouvement lent vers le bas avec le bras qui tenait le couteau, et sa victime essayait de donner des coups de pied pour l'éloigner, lui faire mal, la faire lâcher. Mais l'entrave se situait au niveau du bassin et lui interdisait certains mouvements des jambes. « Arrête de bouger, sinon ce sera une vraie boucherie. » L'homme s'imaginait la douleur vive quand elle trancherait, le sang qui jaillirait de ses entrailles et le viderait jusqu'à ce que mort s'en suive. Il préférait ce scénario que d'y survivre, émasculé à vie. « On peut greffer des couilles et une bite, si je les conserve au froid peut-être. » Il pensa à sa femme. Il allait la perdre, soit en mourant, soit en lui expliquant, en sortant de Réa, pourquoi il n'était plus un homme. Il l'aimait pourtant, même si elle ne l'attachait pas avec des cordes, même si elle ne le faisait plus vraiment bander. Il appelait au secours et criait aussi fort qu'il le pouvait, ce qui agaça Adèle. Aucun autre n'avait jamais crié aussi fort. Un vent favorable et on finirait par l'entendre. Elle découpa son slip boxer et le menaça de le lui fourrer dans sa bouche de salaud s'il continuait à gueuler comme un porc qu'on égorge. Gauvin, tétanisé derrière son rocher, ne bougeait pas d'un souffle. D'ailleurs, respirait-il encore? Il essayait de crier lui aussi, mais aucun son ne sortait, aucun muscle ne répondait. La terreur broyait ses entrailles, et il fermait les yeux par intermittence sans pouvoir contrôler ses paupières pour se préserver de l'horreur. « Je vais te dénoncer aux flics et t'iras en prison !» essaya l'homme qui pleurait maintenant, en sentant la lame sur le haut de son sexe. « Et tu diras quoi à ta femme ? Que tu t'étais perdu en forêt par hasard ? Sale pute ! » L'homme se débattait en gémissant et tâchait de réunir toutes ses forces avec l'espoir vain que les cordes cèdent. Cela dura de longues minutes, durant lesquelles la jeune femme maintenait sa prise en le regardant avec mépris. Elle savourait de les voir prendre conscience de leur faiblesse, de voir leur virilité les déserter avec la lâcheté d'une traîtresse. Adèle attendit qu'il cède au désespoir, que cessent les mouvements de son corps, qu'elle le sente entier dans le renoncement et l'acceptation, qu'il se résolve à l'idée. Elle attendait toujours ce moment où il jette l'éponge, l'air de dire « Vas-y, tu as raison, je le mérite ». Ce moment où ils réalisent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur les femmes, du moins pas toujours ou pas sur toutes, et qu'ils doivent payer pour leurs fautes. Elle espérait qu'ils en gardent la trace, qu'ils se souviennent, qu'ils ne recommencent jamais. Elle lâcha prise et recula d'un pas. « Regarde-toi, pauvre petit connard. T'as débandé en 3 secondes et tu vas te pisser dessus dès que j'aurai le dos tourné. Ça fait le malin, ça fait le fier. Tu iras quand même pleurer comme un gosse dans les bras de ta femme, et elle comprendra pas pourquoi. T'auras même pas les couilles de lui dire que t'es un sale type qui pense qu'à sa bite. Alors peut-être que la prochaine fois que t'auras l'occasion de tromper ta femme, tu penseras à moi. Ça devrait te faire réfléchir. » Elle fit le tour du rocher, monta en selle et s'approcha des liens qu'elle trancha d'un coup sec avec son couteau aiguisé comme un sabre, avant de partir au galop par le sentier d'où elle était venue. Hagard, surpris que son corps se libère soudain en état de choc et de panique, il s'élança droit devant lui pour fuir le danger qu'il pensait encore imminent. La pente s'accentuait rapidement et l'homme, le pantalon toujours baissé, ne maîtrisait pas sa course. Gauvin, réveillé de sa torpeur par le dénouement inattendu, essaya de courir derrière lui pour tenter de le retenir car il savait ce qu'il adviendrait s'il tombait. Il n'en eut pas le temps. Le lac aux eaux noires et froides attendait sa proie. L'homme trébucha, roula et hurla en se cognant aux roches. Quelques secondes plus tard, le bruit de l'eau, fendue par une masse lourde, retentissait dans tout le val. Le miroir aux fées, complice involontaire d'une femme acharnée, allait commencer la digestion lente d'un corps humain. La mouche était prise au piège de la Drosera. Gauvin dévala la pente qu'il connaissait par cœur. La peur du drame accentua son acuité visuelle et il vit chaque détail du sentier entre les rochers. Il jeta sa lampe à proximité du vélo, ôta ses chaussures et son pull et sauta dans le lac. Saisi par la température de l'eau, il déploya une énergie folle pour rejoindre l'homme. Le froid et la vase menaçaient tout corps plongé dans ce lac, mais Gauvin avait appris à nager très tôt et il était à l'aise dans l'élément. Il n'était qu'à quelques mètres du corps qui flottait encore et semblait seulement inconscient. Du moins l'espérait-il. Le garçon ne put constater sa respiration qu'une fois la rive atteinte. Elle était faible. La victime émettait un imperceptible gémissement. Le garçon ne sut que faire ensuite. 1000 pensées circulaient en même temps. Il ne pouvait pas le laisser ainsi, ni le prendre sur son vélo, encore moins le traîner jusqu'à la première habitation située à au moins 2 kilomètres du lac. Pour inquiétante que fût la situation, il n'eut d'autre choix que d'abandonner le pauvre homme pour chercher de l'aide. Il le couvrit de son pull sec et enfourcha son vélo après avoir remis ses baskets. Il alluma la lampe et dévala la pente du sentier en veillant à éviter la barrière en bois qui en fermait l'accès. Il n'avait jamais pédalé aussi vite, respiré de façon désordonnée. 3 kilomètres le séparaient du hameau. Qui choisir ? Pédaler. Pas sa mère. Pédaler. Pas Raymond. Pédaler. Pourvu qu'il ne meure pas. Pédaler. Il est peut-être déjà mort. Pédaler. Où est Adèle ? Pédaler. 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 Pédaler.